En novembre dernier, donc, je vous ai présenté la première partie de Goethe, du voyage de Goethe en Italie, de septembre 88, et je précise les dates, hein, à juin 87, soit 9 mois. C'est ce que je vous ai présenté la dernière fois. Grâce à Claude et Marie Chantal, c'est la soirée des compliments. Hein, parce que, je vais vous dire, on retrouve sur notre site cette conférence en entier. Et non seulement celle-là, vous savez, toutes les autres, donc vous pouvez toujours retourner sur le site, et je crois que certains le font. Après un résumé que je vais vous faire de cette première partie, je vous présenterai la suite du voyage de juin 87 à mai 88, soit près de 12 mois cette fois, passé pour la plupart à Rome. Mais voyage terminé, la présentation continuera sur le thème Goethe en Italie. En effet, le journal que Goethe a publié est bien connu, mais on sait mal quand et comment il a été publié. On connaît mal également les autres œuvres de Goethe sur l'Italie, là où il fait allusion à de mystérieuses rencontres. Donc c'est là le programme que je vous donne de cette présentation. Et tout d'abord un résumé que j'essaierai de faire rapide de la première partie, mais enfin pour ceux qui et celles qui n'y étaient pas, c'était quand même nécessaire. Je me suis efforcé en tout cas d'apporter de nouvelles images. Alors j'avais dans cette première séance présenté les écrits de Goethe. Beaucoup sont des tragédies qui ont souvent inspiré des opéras. Alors là c'est une autre image. Là ça vous rappelle quelque chose? C'est Faust. Hein, bon. Faust mis en musique par Gounod et Berlioz. Alors ça a donné lieu. Faust, il a recommencé des dizaines de fois. Du reste, il y a deux Faust. Et le deuxième Faust a été traduit par Gérard de Nerval. Alors l'imagerie populaire a suivi. Voici, c'est pas l'époque de Goethe, mais c'est du 19e. Bon, vous reconnaissez Satan et Marguerite. Et puis c'est Mignon d'Ambroise Thomas. Hein. C'est le programme de la première séance ou de l'une des premières à l'opéra impérial. Donc vous voyez. Puis suit une œuvre capitale, on vous en a parlé déjà un peu, c'est Werther qui fit connaître Goethe dans toute l'Europe. Werther, c'est un roman épistolaire, je le rappelle. Le jeune Werther écrit des lettres. Il est épris d'une Charlotte, elle-même engagée avec un autre homme. Sous la souffrance d'un amour impossible, Werther se suicide. Ça a été un succès énorme, évidemment. J'y reviendrai. On connaît bien aussi Goethe pour ses poèmes, qui ont fréquemment été mis en musique aussi. Je vous avais cité déjà Le pays où fleurit l'oranger, les citrons, Le roi des hommes, et puis en voici un autre. Et ça, vous reconnaissez, c'est Le roi du Tulet avec la coupe d'or ciselée. Un bref rappel maintenant de la vie de Goethe avant son voyage en Italie. Il est né en 1749 et il publia son journal de voyage. J'ai sauté une date. Il est bien né en 1749 dans une famille bourgeoise de hauts fonctionnaires des petits états de l'Allemagne, qui étaient morcelés en petits états, on y reviendra. Voici sa maison natale à Francfort-sur-le-Main. Inutile de vous dire que c'est une reconstruction. Francfort-sur-le-Main a été rasé durant la dernière guerre. Il paraît que c'est une reconstruction tout à fait à l'identique et qui n'a pas coûté trop cher, paraît-il. Oui, alors son père, le père de Goethe, il s'appelait Johann Wolfgang, lui. Il avait lui-même effectué un voyage en Italie en 1740, voilà la date. Et puis, il a publié son journal de voyage, ce qui a donné l'idée sans doute à notre rejeton, Goethe, de continuer. Il a donné à ses enfants un précepteur italien. Alors, le journal de voyage, il a été écrit de Johann Caspar, celui-là. Il a été écrit en italien, aidé par le précepteur. Hein. Et puis là, c'est a été traduit après en allemand. Goethe, Wolfgang, poursuit ses études à Leipzig, puis à Strasbourg. Il rencontre fréquemment des femmes ou des jeunes filles qui vont l'inspirer dans sa carrière d'écrivain. Il est du reste assez séduisant. En voici l'image à 25 ans. À cette époque, les relations sentimentales de Goethe ne durent jamais bien longtemps, soit que l'élu est engagé par ailleurs, soit qu'il s'en détache lui-même. En voici une brève énumération. Tout jeune, il s'était épris d'une Marguerite, vendeuse de confection, puis c'est une Annette, aussi appelée Kätchen, la fille de sa logeuse à Leipzig, puis il y a Lili Schönmann, fille d'un banquier de Francfort, à qui il dédie de très beaux poèmes, mais là, on va jusqu'aux fiançailles, rompues pour incompatibilité religieuse. Et en Alsace, Goethe rencontre Frédéric, la petite Alsacienne, qui lui a inspiré ses plus beaux poèmes. Vous avez montré également une image de Frédéric. La célébrité de Goethe a conduit ses admirateurs à rassembler plusieurs de ces dames en une seule image. Voici la galerie, hein, ça c'est des amoureuses de Goethe, toutes celles qu'on lui attribue. Je reviendrai sur l'une ou l'autre d'entre elles. Nommé avocat près de Francfort, Goethe y fait la connaissance de Charlotte Buff, B-U-F-F, hein, c'est pas les opéras Buff, appelée Lotte, qui a inspiré l'œuvre de Werther. Goethe en est éperdument épris, comme c'est l'habitude, mais elle est promise à un autre, comme c'est l'habitude aussi. Goethe accepte la situation, contrairement à Werther, mais il en tire le roman qui devait le rendre célèbre. Alors Lotte, elle est parmi nous, là, c'est l'une d'entre elles. C'est elle, Lotte. Lotte Buff. Avec le succès de Werther, le destin de Goethe va basculer. Le duc et la duchesse de Saxe-Weimar rencontrant Goethe, l'invite à venir à Weimar, leur capitale, où il devient conseiller, puis ministre et ami du jeune duc. Bon, on voit Goethe, on devine que c'est lui, là, et on devine que le duc est la duchesse. Le duc est un peu plus jeune que Goethe. L'état de Saxe-Weimar-Eisenach, il y a trois noms, hein, était petit et morcelé. Mais avec la présence de Goethe, Weimar devint peu à peu le foyer de la langue allemande, attirant les plus grands écrivains comme Schiller et Wieland. Alors là, je vous donne en rouge ce que je vous avais déjà montré, mais j'insiste un peu parce qu'on a une très bonne idée de la façon dont l'Allemagne était morcelée à l'époque. Évidemment, en rouge, ce sont les trois états de Saxe, Weimar, Eisenach. En tout, il y avait 200 000 habitants, vous voyez, c'est moins que le Luxembourg aujourd'hui, hein. La capitale avait 5000 habitants, je crois. Goethe est passionné de sculpture et de l'architecture grecque et romaine. Et c'est cet engouement qui va motiver son voyage en Italie. Il partage son enthousiasme avec son nouvel amour, Charlotte von Stein, dame de la cour. Elle était naturellement parmi la galerie que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais la voici, oui, la voici avec Goethe. On la reverra tout à l'heure, cette Charlotte von Stein. Elle est bien sûr là, et puis il faut remarquer qu'il y a un petit garçon. En effet, elle a un enfant, elle est plus âgée de Goethe que de 7 ans. Dame de la cour, naturellement, on ne rend pas public leurs amours. Hein. Du reste, actuellement, les avis se partagent. Était-il vraiment amoureux, n'était-il pas? Mais depuis, l'hypothèse qui a gagné, c'est qu'il s'aimait d'un amour fou. Voici maintenant la carte du voyage. Goethe est parti de Karlsbad, ville de Bohême. Donc, non, là c'est la frontière. Donc Karlsbad c'est encore plus haut. Donc c'est une ville d'eau. Il prenait les eaux en même temps que le duc et sa petite cour, dont Charlotte von Stein. Il abandonna en secret cette petite société et se dirigea aussi vite que possible. Il est parti vraiment sans prévenir personne, hein, vers l'Italie. Il voyageait avec un minimum de voyage sous une fausse identité. C'était assez fréquent à l'époque et Goethe l'avait déjà fait. Mais quand même, il y a des hypothèses là-dessus diverses. Je ne reviens pas sur les détails du voyage. Pour Goethe, seul comptaient les monuments romains. Alors là, je vais passer rapidement, hein, comme les arènes de Vérone. Ou bien à Venise, les œuvres de Palladio, ça c'est le Rédempteur. Tout de même, il reste plusieurs jours à Venise, dont il fréquente les théâtres, la Bottega del Café. C'est le titre de la pièce. Hein. Il poursuit à toute vitesse une voie d'assises. Là, je vous ai montré une image différente, mais c'est quand même typique. Il est resté 3 heures à Assise et puis il n'a vu que le fronton romain de Santa Maria sopra Minerva. C'est ça qui m'intéresse. Inconnu au bataillon. Enfin, il arrive à Rome où il va rester 3 mois dans l'appartement du peintre Tischbein, qui est l'auteur du célèbre tableau qu'on a vu au début. Goethe se rend fréquemment à la basilique Saint-Pierre, où il va monter sur le toit avec Tischbein. Il fait le tour de la coupole à l'intérieur. À Rome, il demeure non loin de la Piazza del Popolo. C'est une image du Piranesi. Il habitait le Via del Corso, je crois que c'est la rue centrale, qui relie la Piazza du Peuple à la place de Venise. Il habitait exactement au numéro 18, Via del Corso. Alors, numéro 18, vous voyez la Via del Corso, c'est une photo de 1930 qui rend bien l'idée, comme elle est étroite. Et puis, on en reparlera d'ailleurs, au sujet du carnaval. Et cette maison, celle-là, est réputée pour avoir hébergé Goethe dans une petite chambre. On le reverra. Goethe est très vite introduit dans les cercles d'artistes par Angelika Kauffmann, femme peintre, qui est l'épouse de Zucchi, un peintre vénutiste. Elle est jolie, Angelika Kauffmann. C'est elle, elle s'est peinte elle-même. Et Angelika, au fil des ans, on lui prête aussi une liaison amoureuse avec Angelika. Mais enfin bon, lui, il l'aimait comme une très grande amie, a-t-il dit. Hein. Et puis le mari était là, Zucchi. Hein, ils étaient toujours à trois. Bon, alors pour voir les ruines grecques, Goethe descend vers Naples. Il passe près de 6 semaines à Naples, dans un séjour interrompu par une incursion en Sicile. Avant ça, il visite 2 fois Paestum, puis Pompéi et Herculanum. Je vous laisse admirer Paestum, you know. Irrésistiblement, attiré par le Vésuve, qui escalade 3 fois, ça je vous ai raconté en long et en large, avec des extraits de ce qu'il a fait sur le Vésuve. Il quitte Naples pour la Sicile, il a le mal de mer, il doit rester dans sa cabine, il reste 2 semaines à Palerme. À Palerme, ça c'était le Vésuve qui arrive un peu en retard. Et puis nous voici à Palerme. Bon, je ne vous ai pas montré la dernière fois l'image de la Piazza Pretoria qui devait porter un autre nom à ce moment-là. Du temps de Goethe qui la voit, en effet. Piazza Pretoria, de toute façon, on l'a appelé tout de suite à Palerme Piazza della Vergogna, Piazza de la honte. Parce que vous voyez, l'abondance de nus qu'il y avait là est de nus, vraiment nus. Bah, Goethe, dans ses commentaires, il ne voit pas les nus, mais ce n'est pas des antiques, hein, alors ça ne l'intéresse pas. Mais il voit, là, on ne voit qu'un peu, les animaux derrière, qu'il décrit longuement. Il y a toute une galerie d'animaux, là, de toutes sortes. Et ça, ça l'intéressait. Puis, il se met en route pour l'intérieur de la Sicile, visitant d'abord Segesta, puis Agrigente. Bon, là, c'est le célèbre la Concordia, qui est, au fond, le seul resté presque intact à Agrigente. Le voyage se poursuit pour Messine, afin d'embarquer pour Naples. La ville avait été détruite 4 ans auparavant par un terrible tremblement de terre. Ça, j'ai repris l'image parce que elle est de l'époque. Hein. Elle donne bien l'idée du désordre entraîné par ce tremblement de terre. On en parlait. C'est l'un des tremblements de terre célèbres de l'époque avec celui de Lisbonne. Hein. La traversée pour Naples commence normalement. Mais Goethe a son mal de mer habituel, ça fait partie de la normalité. Mais sur le point d'entrer dans le golfe de Naples, le vent vient à manquer, le bateau est irrésistiblement poussé, ou vers Capri. Il faut se rappeler que Capri, il y a des rochers, et puis c'est pas bon pour un bateau à voile d'avoir le vent qui pousse dans les rochers. Hein. C'est la panique parmi les passagers, mais Goethe prêche le calme. Alors j'ai retrouvé cette image où Goethe harangue les passagers, dont une dame qui est visiblement affolée. Alors, il rétablit le calme, d'ailleurs. Et puis ensuite, lui, il va se coucher parce qu'il a le mal de mer. La brise revient et permet d'arriver au port. Bon, on arrive au port de Naples, et là, ça devait être tranquille au port de Naples. C'est sur ce tableau du port de Naples que je termine cette première partie récapitulative. Goethe va rester peu de temps à Naples et retourner à Rome, où il passera presque une année entière. La relation de Goethe quitte un peu la forme d'un journal, ce qui me conduit à vous expliquer le livre, comment le livre a été conçu et édité. Je le ferai date à l'appui. Le voyage se déroule dans les années 1786-1788, juste avant la Révolution. Le journal du voyage n'a été publié qu'en 1816-1817, 3 ans après. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y avait eu, hein ? Un chamboulement complet, la première révolution, le premier empire, et Waterloo. Et il avait paru sous un autre titre, comme faisant partie de l'autobiographie en plusieurs volumes que Goethe avait entreprise et qui comprend, entre autres, sa campagne de France. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a fait la campagne de France du côté, évidemment, des coalisés, en même temps que Chateaubriand, qui était du côté des émigrés. Ils ne se sont pas vus. Ils ont tous les deux décrit la campagne, hein, mais c'était des images différentes. Le journal de Goethe se base donc à la fois sur les notes prises par Goethe durant ses voyages en Italie, et sur les lettres qu'il écrivait d'Italie à son amante, on revient sur elle, Charlotte von Stein. Ah, c'est la distinction accomplie, hein, Charlotte von Stein. Alors il écrivait également ses lettres, on le sait après, hein, quand on lit le journal, il y a des allusions très familières. Par exemple, Goethe envoie des coupages pour le garçon, pour Fischen, mais on se dit, mais qu'est-ce que... Enfin, il dit pour les enfants. Il n'en dit rien de plus. On se dit, mais qui sont ces enfants? Qu'est-ce que c'est? Alors, bon, il faut creuser un peu pour voir qu'il s'agit de Fischen, le fils de Charlotte von Stein. Alors, il écrit aussi à Herder, et sans doute à d'autres, hein, et y compris au... Plus tard, il commence à écrire, une fois que son départ a été sans doute encaissé, il écrit également au duc Charles-Auguste. Herder, d'ailleurs, termina ses jours à Weimar. Ce premier journal de voyage ne comprenait pas la partie que je vais aborder maintenant, qu'il écrit le long séjour à Rome. Goethe l'en composa plus tard encore, hein, je vous rappelle, le premier journal c'était 1816-1817, et il l'a composé plus tard en 1829, qui c'est 3 ans avant sa mort. Alors, c'est à ce moment-là d'ailleurs, il avait ce tableau date à peu près de cette époque, et donc c'est une œuvre où il y avait beaucoup de distance avec le voyage lui-même. On comprend bien pourquoi, par conséquent, dans cette dernière partie, le livre a abandonné la forme d'un journal pour prendre celle d'articles variés, décrivant la belle vie, vraiment il a mené une belle vie, que Goethe a menée à Rome. D'abord, il retrouve Via del Corso l'appartement qu'il occupe avec Tischbein. Voici un dessin qu'il y représente. Et notre Goethe, il est en train de dessiner un tas de choses, et puis il ramasse également des moules de tête qu'il essaye de dessiner. Voici quelques dessins qui ont été faits par Goethe. Ça, c'est le Tibre, près de Rome. Et dans le style des anciens qu'il aimait tant, il aimait bien croquer des têtes comme ça. Hein. Il s'appliqua longuement à imiter les artistes, rêvant d'y atteindre la réussite. Il finit par renoncer, reconnaissant que sa vraie voie, c'était l'écriture. Il écrit d'ailleurs dans l'épigramme vénitienne plus tard, « J'ai essayé bien des choses, dessiné, gravé sur cuivre, peint à l'huile. » Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'après les têtes, il a eu beaucoup de mal avec les pieds. Il paraît que c'est plus difficile encore. « J'ai également imprimé sur l'argile. » Oui, après le dessin, comme il n'y arrivait pas, il s'est mis à sculpter. Alors, j'ai également imprimé sur l'argile différents sujets, inconstants toutefois. Je n'ai rien appris et rien réalisé. Il n'y a qu'un seul talent que j'ai porté presque à la perfection, c'est lui qui le dit, écrire l'allemand. Les milieux qu'il fréquentait étaient surtout composés d'artistes allemands pour un grand nombre. Voici les milieux. Ça, le dessin, c'est fait par Tischbein. Hein. Alors, c'était une joyeuse compagnie. Par exemple, quand on annonce l'arrivée du vin d'Espagne au port de Ripetta, on y court pour le déguster. Le port de Ripetta, il y avait Ripa et Ripetta. C'était les ports de Rome, et c'était pratiquement dans Rome. Hein. Le grand organisateur de la vie mondaine, c'est le conseiller Reffenstein. Là, l'image que je vais vous en donner, c'est pas une image de vie mondaine, mais c'est la seule que j'ai trouvée, évidemment. Le conseiller Reffenstein qui a introduit tous les artistes germaniques à Rome, et qui en outre est devenu conseiller de la reine Catherine, qui s'est procuré à Rome beaucoup d'œuvres qui ornent maintenant les musées que vous connaissez à Saint-Pétersbourg. On fréquente des musées, comme la Galleria Colonna. Antonia Kaufmann et son mari savent ménager pour lui des entrées dans les autres cercles artistiques. Voici un tableau qui a été fait par Angelika. Je vous en ai tellement parlé qu'on peut montrer un tableau d'elle. Goethe en parle d'ailleurs. Il dit qu'elle était en train de faire ce tableau. C'est Cornelia, mère des Gracques. On fréquente les musées, comme la Galleria Colonna, avec ses tableaux d'artistes français, comme Claude Lorrain, que Goethe admirait beaucoup. C'est le Lorrain. L'Académie de France est logée non loin de l'appartement, toujours dans la même rue, Via del Corso. Il est logé au palais Mancini, c'est ce palais. Hein, que, voilà, a été bien logé. Hein. C'est ça. Hein. À l'époque, on peut y voir, entre autres, le serment des Horaces, qui a peint David, il l'a peint là-bas. Goethe nous parle souvent de l'Académie de France. Mais j'y reviendrai avec le sujet du carnaval. On fait, à ce moment-là, ensemble, une dernière visite à l'Hercule Farnèse, avant qu'il ne soit emporté pour Naples. Alors, l'Hercule Farnèse avait d'abord été trouvé sans ses jambes dans les jardins Farnèse. Alors, il n'y avait pas de jambes, on lui a mis les jambes sculptées par Guglielmo Porta. Puis, on trouve les vraies jambes. Et puis ensuite, les vraies jambes, à ce moment-là, on a enlevé les fausses jambes, mais elles étaient montrées séparément. C'est seulement au complet, c'est seulement à Naples, qu'on a eu un Hercule Farnèse au complet. Voici l'Hercule Farnèse. Alors, parmi les connaissances, là-bas, il y a le poète Vincenzo Monti, qui sollicite l'avis de Goethe sur une tragédie qu'il avait écrite, appelée Aristodème. Alors, voici Vincenzo Monti. Et puis, peut-être c'est à la suite de ça que plus tard, on voulut le faire admettre à l'Accademia dell'Arcadia, une académie d'écrivains. Mais je vous en parlais un peu plus. L'Accademia dell'Arcadia, actuellement, voici son entrée. Elle est logée dans un parc, je reviendrai là-dessus. Elle a été créée à Rome en 1690. Elle avait reçu le soutien de la reine Christine de Suède. Goethe nous en dit l'histoire. Pour que leurs assemblées ne fussent pas sensation, ils se réunissaient en plein air dans les jardins de Rome. Ils y gagnèrent de se rapprocher de la nature et de respirer dans l'air vivifiant le souffle primitif de la poésie. Ils se couchaient sur le gazon, ils s'asseyaient sur des débris d'architecture et des blocs de pierre, et les cardinaux présents y trouvaient pour toute distinction un siège plus moelleux. Ces hommes s'entretenaient de leurs convictions, de leurs maximes, de leurs projets. On lisait des vers et on s'efforçait de faire revivre l'esprit de l'Antiquité et celui de la noble école toscane. Tout à coup, quelqu'un s'écria dans son ravissement « C'est ici notre Arcadie !» De là le nom de la société, comme le caractère idyllique de son institution. J'ai essayé de vous donner une idée de l'Arcadie, de ses créateurs. Le diplôme d'académicien arcadien lui fut décerné dans un italien pompeux comme ceci. Un nouvel astre illustre étranger est arrivé dans nos bois pour être accueilli parmi les plus illustres membres de notre société pastorale sous le nom de Mégallo, à qui est assurée la possession dans la campagne sacrée de Mernopène, muse de la tragédie. L'Accademia dell'Arcadia existe encore, elle se trouve aujourd'hui au lieu dit Bosco Parasio, sur le Janicule. Cette aquarelle représente le théâtre. Continuons. Bien que protestant, Goethe est intéressé par les grandes cérémonies qui se déroulent les jours de fête dans les grandes églises de Rome, et surtout à la basilique Saint-Pierre. L'abondance de peintres et de tableaux à Rome à cette époque serait bien mise en valeur par cette œuvre issue de l'imagination de l'un des vedutistes de Rome de l'époque, Panini. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Il y a 300 œuvres qui sont rassemblées là. Et c'est un tableau qui mesure 2,70 m, qui est à Hartford, normalement, et qui a été présenté à Mantoue lors d'une exposition en 2001, qui a attiré les foules parce que c'était très rare. De ces 300 œuvres, 80 sont restées encore inconnues. Mais on en a identifié 220. Goethe demeure attaché aux chefs-d'œuvre absolus qu'il visite absolument lors des offices et au moment des offices. Surtout la chapelle Sixtine, dont Goethe et Tischbein se font ouvrir la galerie qui permet de voir, voici le plafond, ça vous change du tableau précédent, le plafond de plus près. Il y avait une galerie en fer qu'il fallait s'y hisser et on était assez près, paraît-il, du plafond. Attention au vertige, dit Goethe, hein, parce que c'était assez précaire. Les offices étaient fréquents à la chapelle Sixtine. Mais hors des offices et moyennant un bon pourboire, il pouvait visiter tranquillement. Un jour, Goethe, assis dans le fauteuil du pape, et gagné par la fatigue, s'y assoupit un moment. En peinture, son préféré, c'est Raphaël. Voici un carton de Raphaël pour la guérison de Storpio de l'éclopée. Mais il revient sans cesse à la sculpture antique. Ici, on a le musée Pio Clementino, qui existait déjà à son époque, comme le musée du Capitole aussi, et qu'il pouvait visiter le soir à la lueur des torches. Là, il est lyrique parce qu'on voit des côtés inconnus qu'on ne pouvait naturellement pas voir de jour. En promenade dans la ville, on choisissait fréquemment le Forum romain, alors appelé, vous le savez sans doute, Campo Vaccino. Oui. Les promenades à l'extérieur de Rome ne manquaient pas, comme ici, à Tivoli. Il aimait beaucoup les cascatelles de Tivoli. Plus tard, il a séjourné à Castel Gandolfo, mais j'y reviendrai. Je vais vous parler un peu plus longuement du carnaval, car Goethe en a écrit un véritable reportage. En voici le résumé. Il y en a 30 pages, je ne vais pas vous les lire et je n'aurai pas la capacité de le faire. C'était la seconde fois que je le voyais. C'est Goethe qui le dit. Hein. Et je dus bientôt reconnaître que cette fête populaire, la première fois, il n'avait pas du tout aimé. Mais la deuxième fois, cette fête populaire, dit-il, avait son cours déterminé. J'en fus réconcilié avec ce tumulte et je le regardais comme un autre phénomène naturel et un événement national considérable. J'observais exactement la marche des folies et comme cela se passait dans une certaine forme, et avec une certaine convenance. Là-dessus, je notais de suite les incidents particuliers dont je me servis plus tard de ce travail préparatoire pour rédiger la notice. Donc, quand il a écrit ça en 1928-29, il avait conservé des papiers. D'ailleurs, il y avait déjà une parution d'un document en part là-dessus. Le lieu du carnaval est la Via del Corso, longue et étroite, qui va de la Piazza del Popolo à la Piazza Venezia, comme je vous disais tout à l'heure. De sa maison, Goethe jouissait donc d'une observation favorable. On voit ici Goethe, ça c'est Tischbein qui l'a peint, qui observe, qui regarde de la petite fenêtre de sa chambre. Alors on fait les préparatifs, le corso est balayé et nettoyé, l'obélisque est la limite des opérations, un échafaudage à gradins est dressé devant, et aussi devant les maisons, beaucoup de maisons du Corso. La rue est semée de puzzolane pour les courses de chevaux qui terminent chaque journée du carnaval. Et là, c'est Goethe qui parle à nouveau. Les fenêtres sont parées de tentures, les échafaudages couverts de tapis, et les sièges donnent l'idée d'une salle. En sortant de chez soi, on ne croit pas se trouver parmi des étrangers, mais parmi des connaissances. Le carnaval a lieu le soir, durant 8 jours. Alors, l'attente est entretenue chaque jour, dit-il, jusqu'à ce qu'enfin une cloche du Capitole donne, aussitôt après-midi, le signal annonçant qu'il est permis d'être fou à la face du ciel. Et bien justement, la folie débridée devant l'obélisque de la Piazza Popolo, je pense. Goethe décrit alors longuement les mascarades, les costumes dont se parent hommes et femmes, les batailles de dragées, de confettis de plâtre, les défilés de voitures découvertes avec les belles dames costumées, les exclamations émerveillées du peuple romain, oh che bella donna, les masques de Polichinelle. Ça, c'est une image de Polichinelle. Pour ce qui est des déguisements, dit-il, les femmes n'ont pas moins de plaisir à se produire en hommes que les hommes à se montrer en femmes. Elles ne manquent pas de s'accommoder le costume si populaire de Polichinelle, et il faut avouer que souvent, elles sont ravissantes sous cette figure équivoque. Je ne sais pas si c'est une femme, je ne crois pas. Hein. C'est dans cette atmosphère qu'a lieu le défilé des calèches des familles nobles le long du Corso. Les chars décorés de l'Académie de France, chaque année, présentent un thème nouveau. Et c'est le clou vraiment du carnaval. Alors, voici par exemple un char de l'Académie de France qui représente, c'était toujours un thème. Là, c'est le thème chinois, puis c'est les Turcs. Tout cela au milieu des Romains débridés. Ça va vous donner une idée. Mais le moment de la course des chevaux approche toujours davantage et tous ces milliers de spectateurs attendent ce moment avec la plus vive impatience. Alors, on va voir donner le départ. Alors là, ce sont, il y a plusieurs des peintures que je vais vous montrer sont de Géricault. Un peu plus tard, mais pas tellement plus tard après. Là, c'est le départ. On voit qu'on peut retenir les chevaux, qu'on a dû doucement droguer avant. Enfin, la corde tombe et les chevaux partent. Sur la place libre, ils cherchent encore à se devancer les uns les autres, mais une fois qu'ils sont arrivés dans l'étroit espace entre les deux files de voitures, toute rivalité devient le plus souvent inutile. Voilà le départ. D'autres palefreniers attendent au palais de Venise l'arrivée des chevaux. On sait les prendre adroitement et les retenir dans un milieu fermé. Le prix est décerné au vainqueur. Le dernier jour, tout le monde se munit de petits candélabres de cristal ou de cierges. On fixe des bougies partout, au bord des carrosses, sur les balcons. C'est un devoir, dit Goethe, pour chacun de porter à la main un petit cierge allumé. Et la précaution favorite des Romains, sia ammazzato, retentit de toutes parts. Sia ammazzato chi non porta bucolo, mort à celui qui ne porte pas une chandelle. Se crie-t-on les uns aux autres en cherchant à souffler les lumières des autres. Plus ce cri furieux « Sia ammazzato » résonne de tous côtés, plus il perd de son affreuse signification et plus on oublie qu'on est à Rome où pour une bagatelle, cette imprécation peut être accomplie en un moment sur tel ou tel. Alors, plus loin, il écrit encore « S'il nous est permis de continuer sur un ton plus sérieux, nous ferons observer que les plus grands plaisirs ne nous apparaissent qu'à moment, comme ces chevaux qui passent d'un vol rapide, nous émeuvent et laissent à peine une trace dans notre souvenir. Qu'on ne peut jouir de la liberté et de l'égalité que dans l'ivresse de la folie, et que le plus grand plaisir n'a tous ses charmes pour nous que lorsqu'il touche au péril et qu'il fait éprouver dans son voisinage une douce et voluptueuse angoisse. » Et voilà comment, sans y penser, nous aurons aussi terminé, Goethe qui le dit toujours, notre carnaval par une réflexion de mercredi des cendres qui, nous l'espérons, n'attristera aucun de nos lecteurs. c'est toujours dans sa, de sa plume. Donc on voit bien que c'était écrit comme un journaliste qui raconte la vue du carnaval pour un journal. Plus tard, Goethe va passer quelque temps, on change de décor, à Castel Gandolfo, dans une villa qui s'appelle maintenant Villa Torlonia et qui était louée par un Anglais marchand d'art. Voici une vue de Castel Gandolfo qui se trouve sur le lac d'Albano. C'était un séjour assez enchanteur. Et dans cette villa, il se retrouvait beaucoup d'invités. Parmi les autres invités, il y avait le conseiller Ralph Einstein, que vous avez montré tout à l'heure, et Angelika Kaufmann. Il se trouve qu'il y rencontre deux jeunes filles, l'une romaine et l'autre milanaise. Cette dernière souhaitait connaître la langue anglaise. N'y mettait-elle pas malice ? La langue anglaise, dit-elle, que tout le monde parlait dans la compagnie. Goethe s'offre à l'enseigner, qui arrive ce qui devait arriver, il s'éprend d'elle. Mais ce qui arrivait encore, c'est que, comme d'habitude, il apprend plus tard qu'elle est promise et sur le point de se marier. Il avoue alors sa grande douleur à cette nouvelle qu'il reçoit et il manifeste son attachement au célibat, faisant allusion au héros de roman que lui-même avait inventé. Ce serait assez étrange, se dit-il, qu'un sort à la Werther te vint chercher dans Rome pour te gâter une position si intéressante et jusqu'à ce jour bien gardée. Il se parlait à lui-même. Hein. On apprend plus tard que les fiançailles de la Milanaise ont été rompues, mais c'est trop tard. Qu'elle a été malade et qu'elle s'en est remise. Goethe la rencontre encore inopinément, mais c'est juste avant de quitter Rome. Voici comment il termine, c'est ce qu'il dit, hein, juste avant de quitter Rome. Parce que voici comment il termine la relation de cette rencontre. Le plus délicieux entretien qui, libre de toute contrainte, dévoila les sentiments intimes de deux amants qui se rendaient à peine compte de leur situation. Je ne veux pas le profonder en le répétant, donc il laisse planer un mystère là. Ce fut l'aveu final, laconique, étrange, amené par hasard, arraché par une émotion intime de l'affection mutuelle la plus innocente et la plus tendre, et qui par là même n'est jamais sorti de ma pensée et de mon cœur. On ne sait pas quoi penser. Mais c'est bien écrit. La date du départ approche. Je vais quand même vous montrer, elle le méritait, hein. Je vais vous montrer, on a un tableau de Margarita, c'est son nom, qui est fait justement par Angelika. La date du départ approche. Après avoir beaucoup tergiversé, Goethe se résigne à quitter Rome. Une dernière vue de Rome. Après avoir distribué ses plantes, il fait un tour de ville accompagné de quelques habits. Puis, seul, il va au Capitole et s'approche des restes sublimes du Colisée, récitant une élégie d'Ovide, le poète latin. Quand cette nuit funèbre occupe ma pensée, cette dernière nuit qu'à Rome j'ai passée, qui m'a vu délaisser tant d'amis précieux, je sens les pleurs encore échapper de mes yeux. C'est bien traduit, je dois dire. Nous sommes le 24 avril 1788 et le journal s'arrête là. Or, Goethe n'arrive en Allemagne que le 29 mai, plus d'un mois après. Et là, pas de nouvelles. Je n'ai trouvé que des traces de son passage, de ce passage de certaines des villes traversées, par deux lettres écrites au duc Charles-Auguste. Alors on sait que du 29 avril au 11 mai, il est à Florence, logeant près du Ponte della Carraia, mont du chariot. On sait qu'il y a travaillé sur son Torquato Tasso. Il écrit au duc, « J'ai vu presque tout ce que Florence contient d'œuvres d'art. » Et l'on pourrait rester ici encore beaucoup plus de temps. La Vénus de Médicis surpasse tout ce que l'on pouvait en attendre. Les tableaux sont remarquables. Je me suis surtout intéressé aux vieux maîtres. Je connais maintenant les antiques. Je puis de nouveau m'intéresser à leurs successeurs. Du 22 au 28 mai, il est à Milan. Le 23 mai, il voit le Dôme de Milan. Et qu'est-ce qu'il dit du Dôme de Milan ? Pour le bâtir, Goethe est assez carré dans ses jugements, hein. Pour le bâtir, on a forcé une montagne entière de marbre à prendre les formes les plus banales. Les pauvres pierres continuent d'être martyrisées tous les jours. L'absurde n'a plus de mesure. Et les mille années sont servies. Bon, ceci dit, le dôme à l'époque, c'était ça. Hein. Donc on peut comprendre, c'est pas du tout ce que l'on voit maintenant. Heureusement, il voit la scène et il dit, c'est dans son genre une œuvre exceptionnelle et rien ne peut lui être comparé. La scène devait être quelque chose comme ça à ce moment-là. Plus tard, d'ailleurs, Goethe écrivit un essai qui est peu connu, qui a été traduit en italien il y a 15 ans seulement, sur la scène. Goethe, ça vous montre toutes ses qualités, hein. Il raconte la genèse de la fresque, illustre la technique, analyse la composition, dénonce les restaurations exécutées par les mains sacrilèges de dilettantes et reproche aux moines la réflexion de la salle, dommageable pour la santé des fresques. Alors, rentré en Allemagne, on quitte Rome, ou on pense quitter Rome, Goethe reprend ses fonctions auprès du duc de Saxe-Weimar. On pourrait croire le chapitre italien sorti de son existence. Mais la Rome latine le hante encore, et il va publier en 1790 un recueil de poèmes intitulé « Élégie romaine ». Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça a été traduit par Pirandello en italien. Élégie romaine directement inspirée par les élégiaques latins. Le nom qu'il pensait leur donner à l'origine indique bien une partie du contenu. Ce nom, c'était Erotica. On l'en a dissuadé, en particulier Schiller. Ces élégies, pourtant très bien écrites, et qui dénotent aussi ses regrets d'avoir quitté Rome, eurent peu de succès. On a cherché le nom de la femme qui inspira les élégies. Ce devait être une romaine, pense-t-on, simple et peu farouche. Il l'appelle le plus souvent Mädchen, jeune fille, dans les élégies. Hein. Et une seule fois lui donne un nom, Faustine. Faustina. Mais qui est cette Faustine? Alors on a cherché. Comme une jeune veuve est évoquée dans une autre des élégies, on a fouillé les archives de la ville de Rome et on a trouvé une jeune veuve appelée Faustine qui fut servante à l'osteria de la Campana qu'on croit reconnaître dans les élégies. Cette osteria existe encore, elle a cette enseigne. Elle existe, c'est même l'un des restaurants les plus célèbres de Rome. Hein. Il existe toutefois une autre version. En juillet 1788, à peine rentré d'Italie, Goethe rencontra dans le jardin public de Weimar une jeune fille, vendeuse de fleurs artificielles, qui s'appelait Christiane Vulpius. Et il en fit sa maîtresse, et ne l'épousa que beaucoup plus tard. C'était un secret pour personne à la cour de Saxe-Weimar, mais on n'en parlait pas. Hein. Elle lui donna des enfants et semble l'avoir rendu très heureux, bien, comme je vous le disais, bien que non accepté par la haute société de Weimar. On dit en Allemagne qu'elle est l'inspiratrice des élégies, mais certains en Italie prétendent encore que Faustine était italienne. Donc, voici Christiane Vulpius. Elle avait une quarantaine d'années, je pense, à l'époque. 39 ans, je pense. On va retrouver d'ailleurs Faustine dans un autre recueil de Goethe consacré à l'Italie, les épigrammes vénitiennes, qui ont paru en 1790 après un voyage à Venise qui se déroula du 31 mars au 22 mai. Alors bon, ben là j'ai retrouvé cette couverture à la fois des élégies romanes et des épigrammes vénitiennes. C'est pas récent puisque le prix du livre c'était de 1000 lire. Édition bon marché. Goethe devait aller à Venise pour y attendre la grande duchesse Anna Amalia à la fin d'un long voyage. La grande duchesse Anna Amalia, je vous montrerai le portrait qui ne lui rend pas tout à fait justice. C'est quand même elle, donc la mère du grand-duc, de l'ami de Goethe, C'est quand même elle qui a commencé à attirer les arts et lettres à Weimar. Durant son séjour à l'Italie, il avait réussi à repousser le voyage de la grande-duchesse accompagnée de toute une équipe qui ne tenait pas tellement à devoir conduire tout ce monde-là et leur servir de cicérone. Donc il a réussi à repousser le voyage, mais là, on lui demande d'aller accueillir à Venise la grande-duchesse. Là, maintenant, il est temps que je vous montre son image. Elle a l'air un peu revêche comme ça. Hein. Et la grande-duchesse, heureusement en fait, elle ne viendra pas. Elle était en voyage en Italie et elle rentre directement en Allemagne. Mais tout ce temps-là, en attendant, c'est 3 semaines, Goethe a écrit les épigrammes, qui sont un court recueil où parfois Goethe laisse percer sa mauvaise humeur, exacerbée par ce n'est pas de chance, justement un très mauvais temps. Mais surtout, Christiane lui manque, et aussi le fils qu'elle vient de lui donner. Son impatience atteint l'Italie tout entière et il commence à en dire du mal. Le pays est beau, mais hélas, je n'y retrouve plus Faustine. Ce n'est plus l'Italie que j'ai laissée avec douleur. Pourtant, Venise exerce encore sa fascination. Venise, avec, vous allez voir. Venise, il dit, par exemple, « Je reposais, étendu dans la gondole, et passé entre les navires qui, pour la plupart, chargés de marchandises, sont ancrés dans le grand canal. Tu trouves là toutes sortes de denrées pour les différents besoins, du blé, du vin, des légumes, des bûches, tout aussi bien que de légers fagots. Nous filions, rapides comme une flèche, on s'imagine, dans l'une de ces gondoles. Slalomant entre les navires. On trouve de tout dans ces épigrammes, des badineries, des grossièretés, mais aussi des réflexions sociales ou politiques ou patriotiques. Et pourtant, elles sont elles aussi très mal connues. Et alors, c'est avec ces épigrammes que va se terminer cet exposé sur Goethe en Italie. Mais je vais vous montrer d'abord ce tableau allégorique de l'Allemagne et d'Italie qui va me servir de fin. Ah. Ouais, ça ne date pas de Goethe même, mais vous devinez que c'est du 19e tout craché, c'est un peu kitsch. Hein. Goethe, ce grand écrivain européen érudit, qui est européen et érudit, était aussi un grand observateur. L'un de ses compatriotes avait dit que Naples et l'Italie étaient peuplées d'oisifs. En réponse, il cite longuement tous les métiers qu'il y voit pratiquer. Tous les petits commerces que l'on peut voir exercer dans la rue, la richesse et la couleur des marchandises étalées, la qualité de leur présentation, la gaieté, la vivacité de la population, qu'il compare, Goethe, qu'il compare avantageusement au caractère de l'homme du Nord, qui n'a jamais cessé d'être, malgré son industrie de l'homme du Nord et toute sa science. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Non, rien là.
Mais simplement, le tableau est de qui ?
Là, justement, j'ai pas eu le temps de. Mais ça, je le dirai, je le mettrai sur la liste. Parce que je l'avais noté, mais je l'ai oublié.
Je ne sais pas quelqu'un de connu. Il est très connu, mais je ne sais pas.
Le tableau est connu, mais le peintre, pas tellement. Non. Ça ne m'a pas, en tout cas, ça ne m'a pas laissé un souvenir à m'en rappeler.
Je voudrais simplement signaler que quand il était à Rome et qu'il habitait chez Tischbein, il a eu un ami qui était peintre aussi, Philippe Hackert.
Oui, c'est vrai.
Et ce Philippe Hackert lui a appris en fait à dessiner parce qu'ils dessinaient beaucoup ensemble. Et un jour, il a été chez America Kaufman et il a lu, sur sa demande d'ailleurs, il a lu à haute voix l'Iphigénie qu'il avait écrit.
Ah oui, ben ça c'est pas étonnant, parce que à l'époque, mais vous savez, tu sais, c'est le voyage de Goethe à Rome, c'est rempli de rencontres comme ça, ouais. Et avec Hackert plusieurs fois. Et on pourrait les citer toutes, mais ça durerait très très longtemps.
Et oui, et justement, ce qu'il y a, c'est qu'il a... Hackert était là et a trouvé ça extraordinaire, cette Iphigénie, et il lui a dit, tu sais, ta peinture, tu n'arriveras jamais à quelque chose d'extraordinaire. Tu es un poète. Et effectivement, il l'a prouvé par la suite.
Non, mais c'est très juste, et c'est Hackert qui l'a convaincu. Hein. Ça, c'est...
Oui.
En fait, alors, en gros, mais là, je schématise quand même peut-être beaucoup. Goethe a commencé par dessiner des têtes, puis des pieds, puis sculpter, et puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et Hackert l'a...
Il s'est d'ailleurs, à cette époque-là, intéressé aussi à la nature, et en particulier à la botanique. Et il était passionné de visites de jardins botaniques.
Oui.
Et en particulier, quand il est allé à Palerme...
Ah oui, ça, je t'ai dit la dernière fois, je n'ai pas repris.
Il a admiré, évidemment, le tombeau de Frédéric, etc. Mais il a surtout passé du temps, soit disant, au jardin botanique de Palerme.
Oui, c'est exact. C'est ce que... Enfin bon, là, j'ai dû faire un résumé.
Oui.
Et donc, je n'ai pas repris le jardin botanique, d'autant que je n'avais comme image que l'entrée actuelle, comme image qui pouvait identifier le jardin botanique de Palerme. Donc, j'ai préféré abandonner d'en reparler. Et j'ai montré la fontaine de la Piazza Pretoria,
oui.
Comme... symbolique de Palerme un peu.
Une autre anecdote, si vous permet, une autre anecdote, c'est quand il a été, ça datait d'autrefois, quand il a descendu le lac de Garde et qu'il s'est arrêté à Malcésine, le pays où fleurit l'oranger, il est arrivé là-bas et il a eu peur ce jour-là, non pas quand il est arrivé, mais tout simplement parce qu'il a dessiné, il a vu des ruines, enfin le château de Malcésine était plus ou moins en ruine, et il s'est mis à le dessiner. Et on a trouvé ça, il était entré dans la cour du château pour le dessiner. Et il y a des hommes de Malcésine qui sont arrivés en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et il a dit ben, « Je dessine, vous dessinez quoi ?» Des ruines, parce que ce qu'il voulait, c'était voir les ruines romaines. On lui a dit que ce n'était pas des ruines romaines, mais un château de vénitien. Donc, ça présentait pas... Et alors, brusquement, il y a quelqu'un qui a dit il faudrait aller chercher le bourgmestre. Parce que cet individu, il paraît bizarre. Il s'est arrivé avec son secrétaire, et ils ont discuté, il a essayé d'expliquer, il n'y croyait pas. Et le secrétaire a dit brusquement... Ça doit être un espion de l'empereur. Alors du coup, il a été... Il a cru que sa dernière heure était arrivée, ou presque. Et alors il a dit, mais je ne suis pas du tout pour l'empereur, je suis d'une république, je suis de Francfort. Et brusquement, il y a quelqu'un qui lui a dit, ah, vous êtes de Francfort, mais alors vous devez connaître la famille, je ne me souviens plus du nom, dont il était. Et il a dit, ah bien sûr, je connais, etc. Et du coup, ils ont dit, eh ben vous voyez, c'est pas un espion, c'est vraiment un républicain.
Oui, oui, oui. Ben, il connaissait. C'était le dit entremetteur, était celui qui a permis de se tirer de ce guépier, avait été émigré, effectivement, chez un banquier. Il y avait déjà des émigrés et déjà des banquiers. À Francfort, oui, c'est exact, il a tiré de ses guépiers.
Et alors, moi, je voudrais te demander éventuellement, comment se fait-il qu'il se soit intéressé à Torquato Tasso, puisque j'ai lu la pièce de théâtre qu'il a écrite sur le Tasso.
Tasso, oui.
Oui, alors, il est allé visiblement sur sa tombe
à
Olanfrio. Mais la raison pour laquelle...
C'est à l'aller, je pense, qu'il y est allé. Hein.
Allez, ça,
et à l'aller, il a fait ça aussi vite que possible. Il voulait arriver à Rome pour deux raisons. D'abord parce que c'était pour ça qu'il était allé, pour les antiques, et le reste n'intéressait qu'à moitié. Et puis, en outre, il voulait arriver pour la Toussaint. Parce que, bien que protestant, il avait l'intérêt pour les cérémonies religieuses, surtout... se déroulant à Saint-Pierre dans ce cadre-là. Et, mais là, tout ça, il ne se passait rien, c'est le lendemain, le jour des morts, que les cérémonies les plus impressionnantes ont eu lieu. Enfin, il était arrivé pour la Toussaint. Donc c'est pourquoi il a fait ce voyage, je crois qu'en 15 jours, enfin bon, il s'est arrêté 15 jours de voyage. Puis, par contre, à Venise, il s'est arrêté presque 2 semaines. Ça, il s'était arrêté à l'époque. Je parle toujours de l'aller. Hein. Et puis, quelques jours aussi à Bologne. Mais sinon, toutes les villes, à Florence, il s'est arrêté 3 jours, 3 heures.
Non, mais le Tâche, c'est à Ferrare.
Oui, d'accord. Et non, mais à Ferrare, il n'y est pas, pas resté.
Non, mais je me demande, enfin, bon, je trouverais sûrement, comment dire, pourquoi il s'est intéressé à ce poète du XVIe siècle.
Pourquoi il s'est intéressé? Mais non, mais tu veux me dire, il a écrit un Torquato Tasso.
Il a écrit une pièce de théâtre.
Du reste.
Que je lis en français, d'ailleurs.
Du reste, Goethe, durant ces pratiquement presque 20 mois, plus de 20 mois passés à Rome, passés en Italie, il ne cessait d'écrire aussi. Parce qu'il avait toujours ses œuvres en cours. Il avait donc Iphigénie, Torquato Tasso.
Ah, voilà.
Oui, il écrivait sans cesse.
Un hommage à. Oui. Italien, grand écrivain italien.
C'est-à-dire que ses œuvres ont été publiées, republiées plusieurs fois, parce qu'il est remanié quelquefois après publication. Alors, il envoyait un autre.
Non, mais c'est un homme tellement prodigieux, une encyclopédie.
Une chose m'émerveille aussi, mais qui ne concerne pas seulement Goethe en particulier, c'est à l'époque, on peut croire qu'il y a des difficultés à correspondre. Or, le nombre de lettres qu'il a écrites, qu'il a reçues, et de colis aussi, c'est inouï. Peut-être qu'il y avait une valise diplomatique, je ne sais pas, mais ce n'est pas seulement avec le duc qui correspondait, mais c'était essentiellement avec Frau Frankenstein, avec Herder, et donc ça circulait sans arrêt. Et il leur envoyait des épreuves, surtout à Herder, d'Iphigénie par exemple, pour demander leur avis. Et ceci dit, à Rome, effectivement, il était de coutume de faire lire, enfin pour lui en tout cas, à son cercle d'amis, ce qu'il avait écrit pour obtenir leur avis. Oui, ça l'amenait à se retoucher assez fréquemment d'ailleurs. J'ai été assez bref pour beaucoup de choses. Hein, je pourrais en dire beaucoup plus. C'est aussi un... C'est aussi... Un personnage qui avait une espèce de prémonition de ce qui devait arriver, parce qu'il a des réflexions sur la médiatisation qui vaudrait, qui, de notre époque, serait encore valable sur la rapidité avec laquelle les nouvelles voyages et qu'on n'a pas le temps d'assimiler, et qui ne donne pas le temps non plus de goûter. Il n'y a pas d'arrêt sur l'événement, ni sur sa description, ni rien. Enfin, on pouvait penser que cette époque était une époque assez figée, en tout cas par rapport à... C'était avant la Révolution, il faut dire.
Ça communiquait beaucoup.
Oui. Alors peut-être, mais si vous le voulez bien, je ne sais pas...
Elle a rencontré Angelica Kauffmann,
Peut-être, vous pourriez peut-être être intéressé par deux choses. C'est que pensait Goethe de la Révolution, et que pensait-il de l'Allemagne en général. Alors pour la Révolution, Goethe était assez partagé. Bon, Goethe, il était quand même le protégé d'un duc. Il vivait dans un milieu déjà un peu protégé, un peu à l'étroit. Donc la Révolution est venue comme un coup de tonnerre, ça a surpris tout le monde. Et plus tard d'ailleurs, évidemment, la mort de Louis XVI, d'un souverain, ça c'était quelque chose d'horrible, de fantastique. C'était... Bon, donc la Révolution, en soi, il n'était pas hostile à une remise en cause de privilèges, à une remise en cause. On sentait que son tempérament le portait à ça. Mais il ne pouvait pas, tenu compte de son milieu, tenu compte de son éducation. Non plus, il ne pouvait pas. Ceci dit, à la campagne de France, il a participé, mais à contre-cœur. Il n'aimait pas la guerre, ça c'est clair. Il n'aimait pas se battre, c'était contre son tempérament. Il y est allé parce qu'il fallait suivre le duc, et il a décrit d'ailleurs tout ce qu'il voyait, tout ce qui se passait. Il n'a pas eu à se battre, je crois. Mais cet aspect-là n'était pas de la guerre, n'était pas ce qui l'intéressait, ce qui l'attirait, bien entendu. Il réprouvait la guerre, hein, mais sans le dire ouvertement non plus. Il a vu Napoléon, il a rencontré Napoléon. Et Napoléon, qui l'a reçu, alors Napoléon a dit à Goethe qu'il avait lu Werther. Bon, tout le monde avait lu Werther, donc c'était pas... Et Napoléon a prétendu l'avoir lu 7 fois. On voit pas très bien Napoléon lire 7 fois Werther, mais enfin bon. Et il n'aimait pas beaucoup, ben évidemment, la fin de Werther, pour lui, Napoléon, ça... En tout cas, les deux hommes se sont quand même appréciés, semble-t-il, et Napoléon a dit à Goethe qu'il fallait absolument qu'il vienne à Paris. À l'époque, Napoléon, comme Madame de Staël, voyait la France comme le phare de l'Europe. Hein. Ça, c'est, faut pas se tromper. Le reste, c'était quand même arrangé dans un... C'était le second ordre. C'était pas la civilisation des lettres la plus accomplie du point de vue des Français de l'époque. Hein. Il faut bien le dire. Et il fallait absolument que Napoléon aille à Paris pour y montrer ses tragédies. Bon, il n'y est pas allé parce que d'abord, il s'est renseigné sur le prix du voyage, parce que Napoléon ne lui a pas dit qu'il invitait à payer son voyage. Hein. Donc il s'est renseigné, et puis il n'aurait pas pu faire payer ça au duc, donc il s'est renseigné sur le prix du voyage, puis il a abandonné le projet. Il ne se voyait pas, pourtant il parlait français. Et après, avec Napoléon ne disait pas un mot d'allemand. Voilà. Bon, alors, ce que je voulais ajouter, c'est concernant l'Allemagne. Eh bien, on pouvait croire, souvenez-vous, l'Allemagne et l'Italie sont morcelées à l'époque. La comparaison est parfaite, hein, ce sont des petits États. Et même en Allemagne, c'est beaucoup plus morcelé, beaucoup plus diversifié que l'Italie. Une chose en commun, c'est en Italie la religion et la langue. En Allemagne, on ne peut même plus dire que c'était la religion, mais c'était la langue. Alors, ce qui est paradoxal, c'est de voir réunis dans une petite ville qui serait en France, Arras ou Caen, vous voyez, réunis des célébrités comme ça, qu'on avait fait venir dans cette petite ville de province. Mais tout était province en Allemagne à l'époque. Et on pouvait penser que l'Allemagne avait soif de se rallier, de se réunir. C'était pas du tout le point de vue de Goethe. Il voyait l'Allemagne unie, mais par la culture, par la langue. Mais il ne voyait pas une nation unique. Et je pense qu'à l'époque, la plupart des Allemands étaient comme ça. C'est avec la Prusse qu'est arrivé l'Empire allemand. Voilà. Du reste, Goethe... n'aimait pas tellement le roi de Prusse de l'époque, c'était plus Frédéric. Frédéric, il avait une grande admiration pour Frédéric II. Mais son successeur, c'était Frédéric Guillaume, je pense. Il n'aimait pas tellement. Et puis, quand même, c'était l'Allemagne. Hein. Il parlait allemand. La Prusse, à l'époque, c'était quand même aussi le pays de Kant, vous voyez. Donc, ça représentait quelque chose. Hein. J'ajouterais que... À l'époque, il faut penser que la France avait 25 millions d'habitants et l'Allemagne n'en avait même pas 15. Et de langue française, il y avait beaucoup plus de parlants français en Europe que de parlants allemands, même si on ajoute l'Autriche et la Suisse. Voilà. C'était... Enfin, on voyait, les Allemands menaient quand même leur vie à part. Ils ne voyaient pas, ils n'étaient pas arrivés sur la France. Non, détrompons-nous, on espérait, on croyait, on s'imaginait que les autres pays...
Parce que les Français ont toujours été très
C'était, oui, c'était l'esprit de la royauté. Hein.